Bonjour, Raymond Richard au micro. Eh bien, nous nous retrouvons pour l'émission Mosaïque. Je rappelle que l'émission Mosaïque permet aux juifs, aux chrétiens et aux musulmans d'aborder ensemble l'actualité, mais aussi d'expliquer aux auditeurs eh bien, ce qui les fait vivre. Alors, dans l'émission d'aujourd'hui, qui est la troisième, nous retrouvons M. Botvinnik, M. Nbati,
bonjour,
moi-même. Et puis, comme le thème de l'émission, c'est les femmes dans les religions, eh bien, nous avons invité Madame Fatna Tari du mouvement musulman Alif, Madame Catherine Bianchi de l'Église protestante unie de France, Sœur Jacqueline Hulot de l'Église catholique et Madame Claire de l'Église catholique.
Bonjour.
Merci à tous et à toutes d'être venus à Radio Grand Ciel. Et puis tout d'abord, eh bien, dans le premier temps d'émission, nous passons en revue notre actualité. Alors, Monsieur Botvinnik.
Eh bien, j'ai retenu deux choses. Jeudi dernier, 15 octobre, au Collège des Bernardins à Paris, M. Richard Prasquier, qui a été l'ancien président du CRIF, a reçu le prix 2015 de l'amitié judéo-chrétienne de France. Il a rendu hommage aux grandes figures qui ont porté le dialogue judéo-chrétien, et en particulier au cardinal Jean-Marie Lustiger. Il a déclaré « Il existe un littéralisme qui veut revenir à l'instant zéro de la révélation, qui est la plupart du temps inoffensif, mais on voit avec horreur ce qui peut survenir lorsque le littéralisme, enfermant Dieu dans l'idée qu'il s'en fait, veut l'imposer coûte que coûte au reste du monde. Le travail de fond des juifs et des chrétiens et des musulmans que nous essayons d'entreprendre ici est de réparer le monde, explorer nos racines et lutter contre la haine. »
Voilà, donc merci de signer justement que cette relation, ce dialogue, nous essayons de le mener à notre mesure ici à Radio Grand Ciel, mais qu'il se mène aussi dans d'autres instances, y compris au point de vue culturel, intellectuel. Mais voilà, pour notre part, il est important. Autre chose peut-être dans l'actualité?
Oui, quelque chose qui doit se passer le 6 novembre. Il a été instauré par l'association de l'amitié judéo-musulmane de France, un week-end porte ouverte des synagogues et des mosquées. Ça va se dérouler partout où il y a des mosquées et des synagogues où les participants sont invités à se rencontrer à la mosquée, à la synagogue et à organiser des activités festives, artistiques ou intellectuelles. Voilà
donc,
quelque chose aussi.
Qui est positif et qui va dans notre sens,
dans
donc
notre
se
sens.
Rencontrer et sentir comment la culture peut rapprocher les hommes. À nous.
Oui,
Monsieur
bonjour.
Bâti, donc.
Je vais continuer dans la positivité. Je voulais chaleureusement remercier le diocèse d'Auch qui vient d'octroyer un don de 5 000 euros qui va permettre la reconstruction de la mosquée de cette ville d'Auch qui a été incendiée le dimanche 23 août. C'est un geste fort, symbolique, qui rappelle qu'en France, musulmans, chrétiens et juifs vivent en paix, dans le respect des libertés des uns et des autres, loin, très très loin, des mensonges véhiculés par certains médias et certains hommes politiques.
Voilà, des gestes pour construire cette fraternité des religions.
Tout à fait.
Et puis, vous voulez nous présenter un livre?
Oui, je voulais vous présenter un livre qui est apparu il y a un mois. Il a été écrit par M. Mohamed Bajarafil, qui est imam à la mosquée d'Ivry-sur-Seine, qui est docteur en linguistique et chargé de cours à l'université Paris 12. Le livre est titré « Islam de France, l'an 1 », avec un sous-titre qui est « Il est temps d'entrer dans le 21e siècle ». Il s'adresse à tout le monde, il ne s'intéresse pas qu'aux musulmans, il interpelle tous les citoyens de la société et qui propose des idées très intéressantes. C'est un petit livre de 150 pages, mais qui est une petite perle. Et l'éditeur, c'est Plein Jour.
Vous voilà, redonnez le titre.
Le titre, c'est « Islam de France, l'an 1 » de Mohamed Bajarafil.
Eh bien, nous allons passer de l'actualité à notre thème essentiel, puisque c'était les femmes dans nos religions. Et c'est vrai que, a priori, on peut se dire, bon, les femmes dans les religions, c'est très simple, c'est circuler, il n'y a rien à voir. Je vais un peu vite en disant ça. Dans les textes, elles sont très présentes, que ce soit dans les textes de la Torah, les textes de l'Évangile ou bien du Coran. Donc, parlons un peu des femmes dans nos religions. Vous commencez par la Torah?
Je vais commencer et d'ailleurs je dirais que les femmes, passez votre chemin, il n'y a rien à voir, mais dans notre bonne vieille France, c'était un peu la même chose Et je vais vous rappeler un tout petit peu de la chronologie historique. Le droit de vote des femmes n'existe que depuis 1946. La disparition de l'incapacité majeure de la femme mariée, ça ne date que du 13 juillet 1965. Ce n'est que de cette date-là qu'une femme peut ouvrir un compte bancaire sans l'autorisation de son mari. L'autorité parentale conjointe, ça n'a été fait que le 4 juin 1970. L'égalité des salaires en 1972, vous savez qu'elle est toujours
en égalité. Il y a toujours encore à faire.
Il y a des lacunes.
Le droit de l'avortement en janvier 1975. Et enfin, un article qui m'a beaucoup impressionné par rapport à nos religions et qui réforme l'article numéro 1 de la Constitution, et ça date du 27 mai 2008. La loi favorise l'accès égal des femmes et des hommes aux mandats électoraux ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales. C'est-à-dire qu'une femme...
En France ou ailleurs...
Nous avons un grand principe qui est que la loi du pays sera notre loi. Dina de Malchuta, Dina, c'est en araméen, la loi du royaume, c'est ma loi, en dehors de l'idolâtrie de tuer son prochain. Eh bien, quand on sait qu'actuellement, il y a des femmes qui sont présidentes de communautés en France, communautés consistoriales, et qu'elles n'ont pas le droit de parler dans la synagogue...
Bon, donc il y a des progrès à faire. Donc... Ça me rassure, hein, parce que quelquefois, je me dis, il y a beaucoup de progrès à faire dans l'Église catholique.
Ça se ressent.
Bon.
Alors, la femme dans le judaïsme, je vais retourner aux sources bibliques... c'est-à-dire à la Torah, hein, à la création. L'humanité entière n'est qu'une immense famille issue de Dieu et d'un seul humanoïde, Adam, le père-mère du genre humain. Au sixième jour, de la terre, en hébreu c'est Adama, Dieu créa un humain, Adam, Adam, Adama, et il l'a créé femme et homme, à l'image de Dieu. Donc Dieu a les deux potentialités. Et il va les séparer, mais un peu plus tard quand même. Alors Dieu lui donna son premier commandement, croître et multiplier et soumettre la terre pour s'en servir au mieux. S'en servir au mieux, on va retrouver le thème de l'écologie qu'on abordera
dans notre prochaine émission.
Puis après avoir demandé à Adam de nommer les couples d'animaux, Dieu se rend compte de la solitude sociale de l'homme, dont l'essence est de vivre à l'extérieur, en dehors. Et que cette solitude existe à Adam malgré la présence de Dieu. Imaginez-vous, il était tout seul, il avait Dieu comme interlocuteur. Et bien malgré ça, il se sentait une certaine solitude. Dieu va donc séparer la côte, ou on dit aussi le côté d'Adam, pour lui faire une aide à son côté. Et l'aide à son côté, en hébreu, ça se dit « konegdo ». Alors ça veut dire à la fois « près de lui », mais ça veut dire aussi « en face de lui ». Donc soit une amie, soit éventuellement une ennemie. Et donc, en raison de cette chose-là, en tout cas, il y a égalité entre l'homme et la femme, et leur réunion est bénie de Dieu. L'homme doit quitter son père et sa mère, s'attacher à sa femme, et ne faire qu'une seule chair. Donc voilà.
Le fondement, je pense qu'on retrouve ces fondements dans la religion musulmane et la religion chrétienne. Actuellement, dans la religion juive, quel est le statut des femmes ?
Dans la Torah, le statut des femmes, c'est quasiment l'égal de l'homme, avec par exemple la sœur de Moïse qui a pu cacher Moïse et faire que Moïse existe. Par exemple, la reine Esther, dont tout le monde connaît la pièce de Racine, sans la reine Esther, tous les juifs auraient été bannis de l'empire perse. Et donc dans la Torah, dans la Bible, la femme est quasiment l'égal de l'homme. Mais qu'est-ce qu'ils en ont fait, nos rabbins talmudiques ? Ils ont commencé à écrire les textes que nous suivons maintenant, et ils ont commencé à l'écrire, grosso modo, entre 2 siècles avant notre ère et jusqu'à 5 siècles après.
Donc là, très marqué par le contexte.
Voilà, absolument. Et donc, il ne faut pas oublier que c'était sous la domination des Grecs, des Romains et des chrétiens. Et donc, on va retrouver des mêmes frilosités.
Même frilosité à l'égard des femmes.
À l'égard des femmes. Alors le jugement des rabbins est très ambivalent. D'une part, on affirme que l'homme est incomplet sans sa femme. Un homme sans épouse vit sans allégresse ni bénédiction. Il doit aimer sa femme plus que lui-même et la respecter aussi plus que lui-même. La fidélité de la femme est d'être une épouse pour donner des enfants à son mari. le célibat est quasiment interdit. Même le mot célibat, célibataire en hébreu biblique n'existe pas. Tout le monde doit être marié, le grand prêtre doit être marié. Et si, par exemple, sa femme mourait au moment où Akipour rentrait dans le Saint des Saints, il fallait qu'il épouse rapidement quelqu'un pour pouvoir rentrer, parce qu'il ne pouvait pas rentrer s'il était célibataire.
Même ah avec oui, tiens, une, ça c'est des, voilà, des choses que j'apprends pour ma part.
Et évidemment, comme le but de notre Créateur est de faire de peupler la terre, eh bien, la stérilité, c'est une terrible épreuve qui va entraîner le divorce, par exemple, après 10 ans d'efforts. Donc, le rôle de la femme, c'est de faire vivre le foyer domestique, et d'appliquer les lois, la nourriture, etc.
Voilà. Alors, c'est vrai qu'on retrouve quelques éléments, notamment la bénédiction de Dieu au travers de la fécondité. C'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans les textes de la Bible, qui sont aussi les textes chrétiens. Alors, Catherine, vous avez été chargée, pendant la vacance de pasteur, d'exercer cette fonction, donc une fonction de responsabilité. Alors, donnez-nous votre témoignage chrétien, pour le coup.
Oui, alors, moi qui suis née dans le chaudron réformé, je dirais que nous avions préparé les tâches qui étaient assumées par un pasteur, d'assumer les cultes chaque dimanche. Nous avons fait appel à des pasteurs ou bien des prédicateurs laïcs, mais il s'est trouvé que pour la première année de vacances pastorales, nous avions des dimanches non remplis. Et j'ai suivi des formations de prédicateurs laïcs à l'Institut protestant de théologie à Paris pour apprendre à construire un culte, rédiger des prédications, etc.
Donc là, vous exerciez vraiment la fonction, et il y a les femmes pasteurs.
Ah, bien entendu, des femmes pasteurs, bien sûr.
Dans la religion protestante, en fait, les femmes ont un rôle de responsabilité. Alors, et dans l'islam, Madame Tari?
Alors moi, ce que je pourrais dire, si je peux me permettre, c'est d'abord remonter à la période anté-islamique. Donc les femmes n'avaient aucun droit, elles n'étaient même pas considérées comme personnes, comme êtres vivants, êtres pensants et sujets. Elles étaient bien souvent... elles subissaient l'infanticide féminin, donc elles étaient enterrées vivantes dès la naissance.
Quelle horreur!
Oui, comme vous dites, quelle horreur! Et donc, quand un papa avait une fille, pour lui, c'était la honte. Pour lui, c'était une honte, une gêne, et il ne pouvait pas se présenter devant les autres hommes de la communauté. Quand elles avaient la chance de ne pas être enterrée vivante et qu'elle grandissait, elle n'avait pas le droit à l'héritage, elle n'avait pas le droit à l'instruction, elle n'avait en fait aucun droit. Et à l'avènement de l'islam, il y a eu énormément de réformes. La femme...
Donc l'islam a fait progresser le statut de la femme tout à fait. Par rapport à ce qu'il y avait avant.
Voilà, tout à fait. Et je parle de la péninsule arabique, bien sûr, là où l'islam est né. Donc, avec le prophète de l'islam, paix et bénédiction sur lui, tout un ensemble de réformes a été fait, bien sûr, par la révélation que Dieu lui a fait via l'ange Gabriel. Donc, à partir de là, les petites filles naissaient et vivaient. L'infanticide était considéré, bien entendu, comme un meurtre. Elles avaient ensuite droit à l'instruction. Et ce n'est pas juste pour faire plaisir, mais c'était un devoir pour tout musulman qui a des filles, de leur inculquer une instruction et une éducation. Et d'ailleurs, dans plusieurs hadiths, des paroles du prophète et des actes, il est rapporté qu'un père qui éduque sa fille et qui lui donne les mêmes droits que son fils, donc le frère de la fille, ait été récompensé par le paradis. C'est dire combien l'importance de...
Dans les textes, une certaine égalité entre le garçon et la fille.
C'est pas une certaine égalité, c'est une égalité, de fait. Parce que...
Alors après, l'usage et la culture ambiante
comme on disait juste avant, c'est vrai que il y a la théorie et puis ensuite il y a ce qu'on en fait, et malheureusement c'est pas toujours respecté. Mais comme là on parle de la religion, donc il était nécessaire de rappeler les sources, les fondements. Donc dans les sources et les fondements qui sont pour nous égalité. Musulmans, le Coran et les hadiths, on voit très bien que la femme a acquis toute sa considération, enfin toute une considération, et elle a été à partir de là considérée comme un être vivant, un être pensant, un être ayant des droits. Et quant à sa place dans la société, elle est très importante aussi. Elle n'est pas une femme recluse, elle n'est pas une femme qui est tenue de rester dans son foyer, non. C'est une femme qui, du fait qu'elle est obligée, c'est vraiment un devoir d'acquérir la science, l'instruction, donc il faut la transmettre, cette science, et être active dans la société dans laquelle elle vit. Donc elle est obligée d'aller œuvrer dans la société. Et c'est la première école, c'est la première éducatrice de toute la société, puisque au sein même du foyer, elle est un pilier fondamental de la famille. Et la famille, la cellule familiale, est la constitution de toute la société. Donc, c'est dire l'importance qu'elle a au sein de l'humanité.
Et alors après, donc, il y a cette torsion due aux usages et... Aujourd'hui,
on a la chance, on a l'opportunité, comme je disais, encore une fois, pourquoi j'insiste là-dessus, parce que c'est extrêmement important, l'instruction et l'éducation. Donc plus la femme sera instruite, plus la femme sera éduquée, plus elle sera en capacité de parler d'elle-même et pour elle-même. Elle ne sera pas contrainte à être défendue ou... par les hommes. Donc,
parce qu'on voit quand même dans un certain nombre de pays musulmans, la femme a une place qui est inférieure à celle de l'homme.
Elle n'est pas inférieure. Quand elle est inférieure, c'est parce qu'elle le veut bien, je suis tentée de dire.
Ah bon, malheureusement. Elle se laisse faire.
Elle se laisse faire, ou bien elles ont choisi d'être dans cette position, de ne pas travailler. Or, quand moi je prends l'exemple de l'Algérie, par exemple, parce que je suis originaire de l'Algérie, je vois que les femmes occupent tous les postes. Elles sont dans les universités, elles sont très actives, et parfois même beaucoup plus que les hommes. Elles sont plus actives. Donc, ce n'est pas... les femmes, on a tendance à vouloir dire que la femme est l'inférieure de l'homme, ou elle est considérée en tant que telle, mais dans la réalité, je ne dis pas que ce n'est pas vrai dans tous les pays. Oui. Il y a des pays, malheureusement, où effectivement, elle est obligée, ou elle est...
Arabie Saoudite, pour le permis de conduire, il vient d'être octroyé.
Voilà. Donc ça, on nie pas que dans certains pays, c'est appliqué, cette
et là, c'est
discrimination
plutôt, c'est
et cette inégalité.
Des usages plutôt que l'islam proprement dit.
Voilà, c'est là que je voulais en arriver. Ce n'est pas l'islam qui prescrit ça. C'est les traditions, les us et coutumes des pays et des hommes qui...
Des lieux et de la géographie.
Vivent. Exactement.
Donc, il y a du chemin à faire. Hein, donc.
Il reste du chemin, mais il faut être positif et optimiste. Et puis, encore une fois, comme je disais à l'instant, les femmes doivent se prendre en charge et agir pour que la situation évolue et que leur place, qu'il leur est de droit, soit occupée par elles.
Voilà. Alors, maintenant, les femmes chrétiennes.
Eh bien, peut-être.
Alors, Jacqueline, oui.
Eh bien, nous, déjà dans l'Évangile, la femme figure beaucoup. Hein. On parle de la belle-mère de Pierre, la veuve de Naïm, la pécheresse. Et puis Marie, quand même, qui est importante dans nos trois religions. Hein. Voilà. Alors, à partir de mon expérience, de fait, j'ai été...
Oui, ça, on va sauter de la Bible.
Oui, aujourd'hui. La femme, dans l'Église, a de plus en plus de place. Elle a un rôle au niveau enseignement, mais elle n'a pas, dans le culte, la présidence et aussi le pouvoir de gouverner. Parce que notre pape, c'est quand même pas, c'est pas une femme. Et puis les prêtres, le responsable de la communauté, c'est quand même le prêtre. Et jusque maintenant.
Oui, donc effectivement, le pouvoir appartient au...
Oui, voilà.
Et masculin. Alors,
c'est ça. Je me permets de rajouter, pendant la vacance pastorale que j'ai assumée, j'ai été très surprise, moi, modeste laïque, je dirais, d'avoir été très bien accueillie par le prêtre pour des rencontres interreligieuses. Moi qui n'avais aucun titre dans l'Église comme pasteur ou autre, j'ai été reconnue et acceptée et j'ai travaillé avec tous ces responsables des différentes religions. Donc, merci, grand merci à eux.
Donc, voilà, donc
j'ai été
effectivement...
écoutée. Voilà, je veux dire qu'il y avait une différence, je dirais, hiérarchique, si je puis dire, mais favorablement accueillie.
Heureusement, hein, quand même.
Oui,
nous sommes en 2015, troisième millénaire.
J'ai été surpris, non, mais c'est... Ça pouvait...
Alors, ceci dit, le synode de la famille fait qu'il y a, trois femmes, hein, quand même, au synode de la famille. Je crois que le pape souhaiterait quand même que...
De plus en plus, oui.
Alors, dites-nous tout ça, Jacqueline.
Oui, j'avais relevé que le pape disait « Il faut encore élargir les espaces pour une présence féminine plus incisive dans l'Église. »
Votre expérience.
Alors, mon expérience, moi, je suis infirmière de profession et religieuse. Et comment dirais-je, donc, j'ai été nommée par Monseigneur Kuhn en 87 comme aumônier. Alors, ça m'a tombé dessus comme vraiment...
Elle vous faisait confiance, ça, c'était un progrès.
Ah, si oui, parce qu'à l'époque, dans le diocèse, il n'y en avait pas eu. En France, il y en avait quelques-unes, puisque automatiquement, j'ai demandé une formation que j'ai eue à Angers pendant 2 ans. Et là, je me suis retrouvée... j'ai soufflé. Je me suis retrouvée avec des femmes, hein, parce que moi, remplacer un curé... d'abord, il a fallu que je fasse un travail sur moi-même, et puis un travail aussi accepté, la mentalité actuelle de l'époque, parce que je me rappelle, puisque j'ai commencé au Buisson, le premier culte que j'ai fait, il y a 2 personnes qui sont parties en disant « qu'est-ce que c'est que ça, une bonne femme comme ça ?» Et pour me faire accepter, eh bien, j'ai dû prendre, me confectionner une aube. Hein, de ce jour-là, ça a été, il y avait une reconnaissance. Parce que, en parlant du costume, j'ai dû, si je connaissais le milieu, si vous voulez, j'ai dû aussi laisser mon tablier d'infirmière. Mais d'autre part, ma vocation de religieuse, de sœur de bon secours, est de témoigner de la bonté du Seigneur auprès des petits, des malades. Alors là, pour le coup, j'étais quand même à l'aise à ce moment-là. Et puis, de fait que je connaissais aussi le milieu. Et là aussi, je remercie tous ceux qui m'ont accueilli, puisque j'ai commencé à l'hôpital, au Buisson, puis à l'hôpital. Les médecins qui m'ont accueilli, parce que nous n'avions pas de bureau à l'époque. Donc, j'ai eu, si vous vous rappelez, docteur, un petit bureau dans le fond d'un couloir, je ne me rappelle plus à quel étage, avec un paravent au début, quoi. Hein, parce que, donc, notre rôle est surtout d'écouter, hein, de faire, d'aider les gens, comment dirais-je, à accepter, à vivre de façon chrétienne ou simplement, même quelquefois, simplement humainement, la maladie, hein, qui est quand même une épreuve. Mais j'avoue que... Et puis alors là, pour le coup, quand même, je reconnais aussi que j'ai eu l'aide aussi des prêtres. Hein,
alors comment vous viviez ce fait, par exemple, d'accompagner les personnes dans leur dans la discussion, et puis à un moment donné d'être obligé d'appeler un prêtre pour donner un sacrement, par exemple.
Alors là c'est la position, autant j'ai jamais désiré être prêtre, puisque ma vocation est religieuse, mais j'ai beaucoup souffert dans l'onction des malades, alors que les gens nous confiaient leur vie, qui avec leur positif, leur négatif, et puis être à ce moment-là, demandant l'aide de l'Église par le sacrement, d'être obligé d'appeler un prêtre. Alors j'ai quand même vécu une fois l'expérience, le prêtre qui est venu m'a dit « vous restez là hein, », parce qu'en principe la confession se passe dans l'intimité, hein. Bon, on est pas présent. Et là le prêtre a demandé que je reste là, ça s'est passé à 3, et il a donné l'absolution au malade en disant « vous avez fait déjà votre confession à la sœur qui représente l'Église ». Parce que quand même, j'étais représentante, puisque j'avais un mandat quand même là. Hein, et le sacrement s'est passé de cette façon-là. Mais malheureusement, je ne l'ai vécu qu'une fois. Mais bon, alors d'autre part, pour demander dans l'Église, il n'y a pas que le sacrement, pour demander le pardon. Il y a des façons, il y a des intentions, des cérémonies, oui, des petites cérémonies qu'on institue et qui nous sont libres, qui sont les,
oui,
hein, le principal, voilà.
C'est vrai que quand on voit la quantité, le nombre de religieuses, oui, dans le monde, oui, comme présence d'église catholique, et en fait,
oui,
la représentativité, oui, des femmes du côté ou bien des conférences des évêques ou bien des conférences des synodes, oui, à Rome, c'est quand même pour l'instant très limité.
Oui, de fait. Mais malgré tout, donc maintenant j'ai 50 ans de vie religieuse.
Ça a bien évolué dans le bon sens.
Même dans au niveau congrégation. Au début, on avait un père spirituel qui était un prêtre, tandis qu'aujourd'hui, bon, il peut y avoir de l'aide l'un et l'autre, mais nous sommes autonomes. Hein,
les femmes sont sorties de leur minorité,
nous avons
y compris dans l'Église.
Nous avons un conseil, nous avons là, à ce niveau-là, c'est au niveau Église, quoi. Hein, oui.
Madame Claire.
Oui, alors moi je vais parler un petit peu de mon expérience, hein, tout simplement, pour vous dire, bon, voilà, c'est quand on est arrivé à Dreux dans les années 80, et j'ai pris une place plus concrète dans l'Église sous l'impulsion de l'abbé Michel Lamboulet, parce qu'à cette époque, il était curé de la paroisse Saint-Michel, voilà, il insistait beaucoup sur la place des laïcs dans l'Église, dans le sillage du Concile Vatican II. Alors c'est pourquoi que depuis ces années, j'ai accepté divers services dans l'Église, soit en couple avec mon mari, soit seul. Et voilà, donc pendant une douzaine d'années, on a fait de l'accueil des fiancés pour la préparation mariage, qu'on a fait en couple.
Hein. Il valait mieux quand même que ce soit des couples.
Voilà. Et puis plus tard,
monsieur le curé tout seul.
Voilà, sur l'invitation du père Robert, j'ai fait partie pendant 3 ans de l'équipe pastorale pour la coordination des projets de la paroisse. Ensuite, donc, il y a eu l'arrivée du père Blondeau. Il m'a demandé d'assurer des permanences au secrétariat paroissial que j'ai fait pendant 7 ans. Voilà, donc aujourd'hui, je fais partie de l'équipe paroissiale. Voilà, et on essaie de mettre des projets interreligieux. Voilà.
Eh bien, notre émission s'achève, hein, le temps tourne. Et peut-être le mot de la fin des uns ou des autres, non ? C'est bon. Eh bien, comme le temps s'achève, je vous dis merci à vous toutes d'être venues témoigner d'une expérience d'église, de communauté religieuse, aussi bien chez les protestants, chez les musulmans, chez les juifs. Merci donc d'être venues à Radio Grand Ciel pour parler de ce thème. Et disons, l'occasion fera certainement que nous reviendrons sur ces questions. Et aux auditeurs, je dis bonne semaine à tous, au revoir.
Égalité et respect dans le monde entier. Mieux communiquer et nous respecter.
Tous frères et sœurs, s'entraider, mais surtout s'aimer.